RMC, Bourdin & Co, Guillaume Caour.
10h07, vous êtes sur RMC pour réviser sur l'actu au 32-16 rmc.fr avec dans quelques instants la fin de la cavale de Radovan Karadzic. Nous allons en parler avec un spécialiste de l'intégration européenne parce qu'il semblerait que la Serbie ait arrêté Karadzic pour mieux intégrer l'Union européenne. Dans quelques instants, rmc.fr pour réagir sur l'actualité. On va reparler de Radovan Karadzic avec Christophe Salio. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous travaillez pour le Center for European Integration Strategy. Et désolé pour l'accent une fois encore. Vous occupez de l'intégration européenne des pays des Balkans. Vous avez écrit l'après-guerre des Balkans aux éditions Kartala. L'arrestation de Radovan Karadzic, est-ce que c'est une surprise?
Écoutez, pas vraiment. Il y a déjà quelques semaines, un mois, l'agence BIA, c'est l'agence de sécurité de renseignement serbe, donc les services secrets, si on veut serbe, laissait entendre que l'arrestation était imminente. Alors, arrestation ou reddition masquée en arrestation, à mon avis, c'est d'autres options est tout à fait probable. Il faudra bien entendu faire la lumière sur l'arrestation ou sur cette reddition, et il faudra bien entendu aussi faire la lumière sur comment se fait-il qu'il a fallu attendre 13 ans pour arrêter ce criminel de guerre et inculpé de génocide notamment.
Alors on dit, Christophe Salio, que la donne politique a changé en Serbie, ce qui explique que l'on ait enfin arrêté Radovan Karadzic. Expliquez-nous.
Oui, alors bon, c'est plein de paradoxes, hein, et c'est pas évident, mais on va essayer de faire simple. Premièrement, quelque chose de très important, Koštunica, l'ex-premier ministre, eh bien, n'est plus au pouvoir. Il y a un nouveau gouvernement depuis 10 jours, et c'est surtout Koštunica qui bloquait la livraison, l'arrestation, la reddition de Karadzic, entre autres.
Hein. Oui, oui.
Et ça c'est un fait qui, si on lit notamment l'ouvrage de Carla Del Ponte, La Caccia, qui a été publié pour le moment qu'en italien, eh bien on se rend vraiment compte du manque de volonté politique jusqu'il y a peu en Serbie en particulier. Il y a aussi un manque de volonté politique en
10 jours. En 10 jours, la donne politique, la volonté politique a changé, c'est ça?
Oui, il y a en partie une autre classe politique qui est au pouvoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, là entre en jeu l'Union européenne quand même, le 28 avril de cette année, la Serbie a signé avec l'Union européenne un accord de stabilisation et d'association. Alors deux points là-dessus, c'est l'avant-dernier pas avant de devenir vraiment candidat à l'Union européenne. Donc la Serbie se trouve presque dans le chousse final. Le deuxième point qui est capital, c'est que cet accord était conditionnel, c'est-à-dire qu'il restait sans effet avant la pleine coopération de la Serbie avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Ça voulait dire donc pas de coopération entre la Serbie et l'Union européenne tant que Karadzic n'était pas livré?
Oui, pas d'avance dans le processus d'intégration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la classe politique qui est au pouvoir, a comme principe, comme point capiton de sa politique, de faire avancer la Serbie dans le processus d'intégration européenne. C'est la seule perspective d'avenir. Ils vont quand même pas adhérer à la Fédération russe. Hein. Donc, je veux dire, l'avenir de la Serbie est clairement en Europe. Et en Europe, c'est l'Union européenne, évidemment.
Et Radovan Karadzic, quelle image a-t-il encore en Serbie aujourd'hui?
Ça dépend. Dans certains milieux, évidemment, c'est un criminel de guerre. Hein. Dans d'autres, eh bien, on le traite comme un héros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né au Monténégro en 1945. Ensuite, psychiatre à Sarajevo, poète à 16 heures. C'est vrai qu'il s'est très vite engagé, lorsqu'il s'est engagé en politique dans les années 90, c'était immédiatement du côté des ultranationalistes pro-serbes. Hein.
Donc il y a encore des Serbes qui le considèrent comme un héros.
Oui, bien entendu, comme en France, certains, je ne vais pas faire d'amalgame ici, hein, s'il vous plaît, hein, mais certains considèrent des collaborateurs comme des héros, peut-être. Ouais. Je ne ferai pas mention d'hommes politiques ou de généraux, mais tout ça est naturellement une question de point de vue.
De point de vue de génération, peut-être aussi.
Oui, mais d'où l'importance du tribunal pénal international, et que ce soit naturellement au premier pour les victimes, notamment du génocide de Srebrenica, mais aussi du siège de Sarajevo, il est important que justice soit faite et bien entendu aussi que les historiens se penchent sur cette sale histoire qui enfin prend fin.
Merci beaucoup Christophe Solliot, merci d'avoir été avec nous avec votre ouvrage L'après-guerre dans les Balkans aux éditions Cartala. Il est 10h18 sur AM.